figure clairement libérale ou néolibérale. Enfin, c'est le premier président libéral décomplexé de l'histoire de la Ve République. Il y a aucun doute là-dessus. Et les réformes qu'il propose vont dans ce sens. Et en même temps, évidemment, une tradition jacobine, voire monarchique, dans sa façon de gouverner. Et bien, là, je crois qu'il est impératif de comprendre que le néolibéralisme est précisément la convergence de ces deux choses qu'on n'a pas l'habitude de penser ensemble. Et là, je me réfère à Michel Foucault, là aussi, et à sa théorie du libéralisme, où il dit « Le libéralisme comprend toujours pour une limitation de la politique au service du marché, donc un gouvernement qui finalement se restreint, se réduit et laisse les forces du marché l'emporter, ce qui serait une vision, disons, la vision classique du libéralisme et la critique marxiste traditionnelle du libéralisme. Cette vision est à courte vue. Parce que, dit Foucault, le libéralisme apparaît à une période historique, 19e siècle, où il s'agit aussi de définir ce qu'est la vie, comment la protéger, comment l'optimiser. C'est l'époque où apparaissent les premières politiques natalistes, où les gouvernements finalement entrent dans nos vies privées, la question de la reproduction, de la famille, de la santé. Ce qu'on voit bien effectivement avec cette loi, et où, pour la première fois, le pouvoir politique n'a pas pour rapport à la vie un rapport seulement répressif, c'est-à-dire un droit de vie et de mort sur les gens, mais un rapport bienveillant, bien intentionné, là aussi voulant optimiser nos corps, nos vies, nos santé, mais imposant évidemment par là des normes très strictes, absolument monolithiques, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres rapports à la santé possibles, et la liberté individuelle commence par la liberté de prendre des risques, ce qui semble avoir été un peu oublié aujourd'hui. Encore une fois, tout ça, et la raison pour laquelle moi je m'y suis intéressé, me semble renvoyer, en tout cas pour la France, à une époque pas si ancienne, la décennie 80, où beaucoup de ces choses-là se mettent en place, à la fois une généralisation des politiques de santé, ou en tout cas de l'intervention du législateur dans nos corps, nos vies privées, notre rapport à la santé, y compris d'ailleurs, pas seulement du législateur, mais des grands groupes pharmaceutiques. Hein, c'est l'époque du boom de l'industrie pharmaceutique en France, en pleine crise économique. C'est aussi l'époque où on commence à parler de la santé en des termes, enfin, où les médias se saisissent de cette question. C'est l'époque des grands magazines de santé où on parle pas de santé mais de forme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la santé, il faut être en forme. Donc, la forme devient effectivement, on le voit bien, est liée au sport, à la séduction, à ce que les historiens appellent le corps extérieur, c'est-à-dire pas le corps intérieur, c'est-à-dire l'épanouissement par le sport ou par la santé, mais le corps visible, le corps en une de magazine. Le corps, là aussi, au cœur de l'espace public, sans rien derrière. Donc, il suffit de remonter quelques années ou décennies en arrière pour voir se mettre en place un discours qui n'a plus d'alternative.
Donc, à vous écouter, Nicolas Sarkozy en short serait un petit peu le Bernard Tapie que l'on voyait en collant fuchsia faire de la gym avec Véronique et Davina.
Allez, on monte au petit tronc. Bravo Bernard, t'as bien suivi, viens toi avec nous. Jogging. L'entraînement, vous l'avez là, hein. On respire bien, souple. J'espère que vous avez pris de l'endurance.
Oui, si vous voulez. Effectivement, l'époque, les années 80, c'était Tapie face à Véronique et Davina, et Bernard Tapie étant un peu leur équivalent masculin, donc proposant le dynamisme et l'activité du corps comme façon de s'en sortir. Sarkozy, c'est la version pour aujourd'hui de la même chose. On peut noter de façon anecdotique que son propre mode de vie, en tout cas ce qu'on en dit, c'est-à-dire le fait qu'il ne boirait pas, son jogging permanent, cette espèce de santé exaltante du corps qui lui permettrait, comme Napoléon, de dormir si peu et de travailler tant, font partie des arguments importants qui ont convaincu les Français, qui continuent d'ailleurs de les convaincre derrière les scandales actuels. Donc effectivement, il incarne ce rapport-là à la santé, mais avant, et là moins anecdotiquement, il incarne d'abord un très ancien rapport à la loi, qui est que la loi est l'alpha et l'oméga de l'ordre social. C'est ce à quoi il faut obéir pour qu'on puisse commencer à discuter, et c'est ce qui doit être appliqué avant d'être possiblement débattu, hein, ce qu'on voit d'ailleurs lorsque les journalistes arrivent à poser des questions aux policiers qui viennent arrêter les immigrés clandestins dans le cadre des quotas actuels de politique contre l'immigration clandestine, et les policiers disant on applique la loi en des termes, je veux pas faire de comparaison historique, on ne les fera pas, mais en des termes qu'on connaît et qui sont qu'effectivement il y a, alors là aussi on peut citer un mot de Foucault, il appelle ça l'idéalisme de la loi, donc il ne s'agit pas de citer Vichy ou Pétain, c'est l'idéalisme de la loi, c'est-à-dire la loi a raison parce qu'elle est la loi, y compris lorsque elle semble nous vouloir du bien, à nos poumons et à nos santé. Quoi.
Alors, les plus attentifs des auditeurs ont reconnu le petit cliquetis de votre stylo que vous aviez déjà en main au moment de la décennie.